débureaucratisation. Moi, ça fait directement penser à Elon Musk, ce qu'il veut faire avec le Doge, ce qu'il va faire aux États-Unis. En fait, quand on regarde nos opposants en Chine, les bureaucrates, il n'y en a pas autant que de par chez nous. Il n'y a pas autant de fonctionnaires.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver alors qu'on approche d'un anniversaire importantissime, ou plutôt de deux anniversaires importantissimes. La 500e de Zoom Zoom Zen, d'abord, ce sera le 3 mars, juste après les vacances. Et puis bien sûr, les 50 ans de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui aura donc un demi-siècle demain.
Mon Dieu, oh là là.
N'en rajoutez pas, Manon, il le vit déjà suffisamment mal comme ça. Oui. Deux événements qui auront en tout cas pour point commun d'être nos limites sur le budget, comme l'a indiqué très clairement Cyril au prestataire événementiel qu'il a choisi pour sa soirée, lui Entertainment. Tu vois les 50 ans de Jay-Z au Madison Square Garden, eh ben tu me fais pareil, mais pour 1 200 € hors taxe. Après avoir négocié un ratio 50 € sur facture et 1 150 € en cash, voilà. Quentin a topé. La soirée s'annonce fabuleuse dans cet écrin de prestige qu'est la salle polyvalente Jean-Luc Reichmann de Ponto Combo. Boule à facettes, stroboscope, machine à fumer, photobooth sur le thème du pâté en croûte. Tous les ingrédients du fun seront réunis pour que les amis de Cyril en prennent plein les yeux. Sans compter que depuis 6 mois, le clou de la soirée, Cyril répète l'hymne de la joie à la flûte à bec.
Oula.
À l'instant, ce SMS de Jay-Z... Je suis écœuré, j'aurais dû prendre la Lui Entertainment. Mais en attendant ces réjouissances, il nous reste une émission à faire et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui on va zoomer sur un mot qui a le vent en poupe en ce moment, notamment grâce au tandem Donald Trump-Elon Musk, la débureaucratisation. Le terme n'est pas nouveau, en France on nous le rabâche depuis Pompidou, alors les administrations modernes sont-elles vraiment trop lourdes? Sont-elles vraiment un frein à l'entrepreneuriat? Quentin a-t-il raison de tenir des propos comme, je cite, « On dira ce qu'on voudra, mais Milei fait de belles choses en Argentine
oh, ».
Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Luc Rouban.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Luc, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vos travaux portent essentiellement sur la transformation du secteur public en Europe et plus particulièrement sur les mutations de la fonction publique et de la réforme de l'État. Alors que Trump a demandé à Musk, on le sait, de tailler à la hache dans l'administration américaine, d'autres personnalités chez nous en France demandent une débureaucratisation de la fonction publique. Alors qu'est-ce que ça implique? Vous allez nous expliquer tout ça pendant une heure. Juste le temps de vous présenter des effectifs dans lesquels je ne taillerai jamais à la hache. Vu leur taille, une petite serpe suffira. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour à tous.
À vos côtés, Luc, c'est elle aussi sa dernière émission avant les vacances.
Ah oui.
Dans un établissement festif de Méribel nommé La Folie Douce, la direction a déjà fait disposer une banderole géante sur laquelle on peut lire « Bienvenue la Marianoche ». Avec la pub qu'on leur fait, si vous n'avez pas un petit 10% sur l'addition,
ouais,
ça sera un scandale.
Manon, ça
restera
cher.
C'est clair.
Manon, chaque après-midi, vous nous présentez la personne à suivre sur notre sujet du jour.
Et quand il y en a plus, il y en a encore. Une nouvelle figure de la droite américaine proche de Donald Trump qui a fait de la bureaucratisation son ennemi.
Face à vous, Luc, son hostilité vis-à-vis de la bureaucratie se double, on le sait, d'une phobie administrative qui l'empêche de répondre favorablement aux appels de cotisation de l'URSSAF. C'est un fervent militant de la débureaucratisation, raison pour laquelle il s'est fait le même bouc que Guillaume Kasbarian, l'ancien ministre fan de Musk. Quentin,
vous avez vu que j'ai plus de bouc.
Ouais, bah vous avez un truc bizarre, un peu comme lui. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les convertir à vos idées ultralibérales.
Oui, bah, je pense que c'est exactement ce qui va ressortir de ce micro-trottoir, vous l'entendrez. Je vous ai demandé quelles sont vos galères administratives en ce moment et comment imaginer une France qui se débureaucratise. Vos réponses et vos idées dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, et si pour débureaucratiser, on confiait le boulot de certains fonctionnaires à l'intelligence artificielle? Ça pourrait être une bonne idée ou pas, comme on va le découvrir dans un Zoom Zoom test spécial, les ratés de l'IA dans l'administration. Juste avant 17h, c'est Lucie Carbone qui viendra nous dire ce qu'elle pense de la débureaucratisation. Mais d'abord, Luc Rouban, est-ce que la France est vraiment suradministrée, comme on peut le lire assez souvent finalement?
Ah bah c'est une vaste question, parce que dans l'idée même de suradministration, vous avez plusieurs idées. Vous avez l'idée qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'il y a trop de normes, qu'il y a finalement tout un secteur public qui échappe plus ou moins au contrôle, qui s'exerce en général dans les entreprises privées sur le travail. Donc vous avez en fait un confluent de... Vous êtes au confluent de plusieurs idées très critiques à l'égard d'une espèce de pouvoir anonyme qui serait omniprésent, qui serait un petit peu totalitaire, et c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'en fait, on commence déjà à parler de débureaucratisation avec le marquis de Gournay en 1759.
Ah oui, ça va vraiment très
très
loin.
Voilà, donc c'est là qu'on commence à parler vraiment, à développer une idée libérale, et lui-même, il est négociant malouin, il dit non, non, ça va pas, il faut vraiment qu'on allège les normes et qu'on allège les affaires en France et le commerce, notamment international. Donc c'est pas nouveau. Alors après, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, et là, c'est un sujet absolument indéfaisable, parce que dans le fond, derrière tout ça, vous avez en moyenne beaucoup plus de fonctionnaires en France que dans d'autres pays,
ouais.
Mais pas dans tous les secteurs. Et dans les autres pays, vous avez une bureaucratie qui est de type privé. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de fonctionnaires dans le secteur de la santé, dans le secteur social, mais vous allez avoir finalement des entreprises privées, des assurances, etc., qui vont assurer le même travail. Donc vous avez aussi une bureaucratisation privée. Alors effectivement, vous avez beaucoup de fonctionnaires en France. C'est vrai que globalement, on n'a pas baissé le nombre de fonctionnaires depuis une vingtaine d'années. Ça continue à augmenter.
Mais alors qu'on en parle toujours. Comme quoi, c'est pas si facile.
Ah mais non, mais de toute façon, ça c'est compliqué. Mais alors le problème, c'est que évidemment, c'est un nombre... un chiffre global, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de fonctionnaires de l'État tend plutôt à stagner, voire à diminuer, c'est celui des collectivités locales qui a augmenté. Et comme le problème, c'est que les fonctionnaires des collectivités locales font pas en général le même travail que ceux de l'État, le sujet devient absolument confus et complexe, parce que dans le fond, vous avez effectivement dans un certain nombre de secteurs un manque de personnel, c'est dans le domaine hospitalier, dans l'enseignement, dans certains secteurs, vous n'arrivez plus à attirer suffisamment de candidats, et ça c'est le grand problème de l'attractivité, et au niveau territorial, vous avez tout un débat, savoir s'il faut garder aussi les effectifs des communes, plus ceux des départements, plus ceux des intercommunalités, plus ceux des régions, ceux des établissements publics.
On a une heure pour essayer d'y voir plus clair dans toutes ces catégories. Face à vous, Luc, on n'a pas tous les jours un demi-siècle. Alors forcément, à la veille de son anniversaire, Cyril Lacarrière a d'autres choses à penser qu'à la débureaucratisation, notamment son interprétation de Beethoven, car tout doit être parfait, hein, au cordeau.
Au cordeau.
Et pourtant, figurez-vous qu'il a trouvé le temps de nous pondre un petit billet sur l'origine de notre mot du jour. Alors Cyril, dites-nous, la débureaucratisation, d'où ça sort ?
Lu dans le Figaro cette semaine, Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique Lyonnais, je le cite. « Un club de football sans stade n'est pas la même chose qu'un club propriétaire du stade. Avec son enceinte, l'OL s'est doté d'un modèle économique susceptible de résister. Malheureusement, on a mis 10 ans à le construire du fait de la lourdeur des procédures administrative. Et hop, une pièce dans la machine, cette administration qui nous empêche, cette bureaucratie qui nous freine pour devenir compétitif. Si on est mauvais, selon Jean-Michel Aulas, c'est aussi à cause de ces bureaucrates qui cherchent des petites bêtes, donc il faut débureaucratiser.
Mais je m'imagine que ça vient pas de Jean-Michel Aulas, cette idée, Cyril.
Et vous imaginez bien, mon bon Noël, on a commencé à l'évoquer, ça remonte assez loin finalement, mais c'est quand même à partir des années 60-70 que l'idée de réduire la bureaucratie commence à émerger. Les théories du management moderne exigent plus d'efficacité et ça passe par moins de contraintes. Il faut revoir, voire repenser l'héritage de Max Weber, le sociologue allemand, pour qui la bureaucratie était un pilier des sociétés capitalistes modernes. 1966, une scène à Matignon. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. Tout ça, c'est le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui s'énerve. Il s'adresse à Jacques Chirac, qui n'est qu'un chargé de mission à l'époque. C'était il y a près de 60 ans et on dirait un discours de la semaine dernière. Depuis, ce slogan de la débureaucratisation est revenu comme un serpent de mer avec l'arrivée au pouvoir en France de Valéry Giscard d'Estaing, aux États-Unis aussi avec Ronald Reagan, qui en a fait un moteur de sa campagne ultralibérale. Tous les gouvernements, sans doute partout dans le monde, promettent de simplifier la vie de leurs concitoyens, jusqu'à Donald Trump et Elon Musk, qui veulent dégommer les fonctionnaires américains qu'ils voient comme des parasites. Mais si tout le monde promet de débureaucratiser, c'est que finalement, est-ce qu'on ne débureaucratise pas ? Jamais vraiment. Mais du coup, faut-il vraiment débureaucratiser ?
Oh
eh bien, écoutez,
beaucoup de syllabes. Beaucoup de
syllabes. Chaussettes de l'archiduchesse.
Beaucoup de consonnes, c'est passé. Très compliqué. C'est passé, mais pas vraiment
passé.
Crème. Pas vraiment crème.
Mais ça a pas ripé.
Merci Cyril. Luc Rouban, est-ce que Pompidou, il avait raison quand il disait qu'on emmerde trop les Français avec trop de lois, trop de textes, trop de règlements ? Ou bien au contraire, c'est un discours qui a participé de la stigmatisation injuste au fond de l'administration qui fait son boulot, quoi ?
C'est-à-dire que oui, il y a les deux. C'est-à-dire que d'une part, il y a trop de mauvaises lois, hein, c'est tout le problème. Parce que le problème, c'est pas tellement les lois en tant que telles, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Et déjà, vous aviez eu un rapport en 2003 du Conseil d'État qui disait attention, les lois deviennent verbeuses, elles deviennent trop détaillées, c'est plus possible. Et donc, ça crée des contentieux, ça crée des tas de problèmes de mise en œuvre. au niveau réglementaire. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle la légistique, c'est-à-dire l'art d'écrire les lois, c'est perdu. Donc il faut faire des cours maintenant de légistique aux fonctionnaires. Donc vous voyez, il y a un problème de qualité. Ensuite, effectivement, bah, la bureaucratie, ce sont des normes, et les normes, c'est l'état de droit. Donc tout l'enjeu politique aujourd'hui, c'est de... Attention, c'est très... c'est, je dirais... On est vraiment sur le fil du rasoir, parce qu'on peut dire effectivement il y a trop de bureaucratie, mais on arrive vite à dire il y a trop d'état de droit. Donc après tout, pourquoi pas finalement revenir à l'arbitraire ou revenir à la décision personnelle. Parce que s'il y a des bureaux, c'est qu'il y a des normes, et s'il y a des normes, c'est qu'il y a eu des élus qui ont voté aussi des lois. Donc le problème, il est là. Donc effectivement, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de décrets de mauvaise qualité, malheureusement. Il y a trop de contentieux, c'est trop long, il n'y a pas assez de magistrats, et donc ça tourne en rond.
Et depuis quelques années, on a un ministre chargé de la simplification administrative. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça porte ses fruits, ça ?
Bah écoutez, alors moi j'ai compté, depuis 1947, il y a eu 56 ministres de la modernisation. Oui.
Mais personne ne le sait, à part vous.
C'est pour ça que je suis au CNRS. Bon, donc, si vous voulez, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évoluer les intitulés. C'est-à-dire qu'entre 1947 et 1995, vous en avez 34 qui s'occupent de la réforme administrative. À partir de 1995, on ne parle plus des administrations, on parle de la réforme de l'État à partir du gouvernement Juppé. Et donc, entre 1995 et 2017, vous en avez 16. Et à partir d'Emmanuel Macron, vous ne parlez plus de l'État, on ne parle plus de l'État, on parle de l'action publique. Et là, il y en a eu 6 depuis 2017. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution des intitulés, parce que progressivement, la question administrative devient celle de l'État, et après celle de l'action publique, ce qui débouche évidemment sur le débat autour du libéralisme.
France Inter, Zoom Zoom Zoom. Mathieu Noël.
Faut-il vraiment élaguer notre administration, comme l'appelle régulièrement de ses voeux Quentin dans ses éditos pour Alain Madelin Hebdo ?
Zoom en tout cas
cet après-midi sur la notion de débureaucratisation. On est toujours avec le sociologue Luc Rouban. Luc, quand on parle de débureaucratisation, on pense à Nicolas Sarkozy qui avait promis à l'époque de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Alors ça, c'était une promesse qu'il n'a pas vraiment tenue, je crois.
Oui, parmi d'autres, mais si vous voulez, le problème, c'est ce qu'on a appelé la politique de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, mais le problème, si vous voulez, c'est que le bilan aujourd'hui montre que, alors à la fois, cette ambition n'a pas été atteinte, et globalement, on a réduit de 150 000 postes le nombre des fonctionnaires, parce que l'éducation nationale n'a pas été concernée, un certain nombre de secteurs ont été renforcés, comme la police ou la magistrature. Et au bout du compte, il y a eu des rapports, notamment de l'Inspection Générale des Finances là-dessus. Le bilan est quand même très pauvre. Très très pauvre, et dans le fond, on n'a pas réussi à réformer le système comme l'espérait Nicolas Sarkozy et son entourage.
Mais surtout, c'est le ratio qui était un peu fou. 1 sur 2, ça voudrait dire que 50% des fonctionnaires sont inutiles, ce qui n'est certainement pas le cas. Enfin, c'est un peu dingue comme objectif.
Non, c'est pour ça que ça n'a pas été appliqué, parce que sur le terrain, bah, on a dit non, c'est pas possible. Donc, c'est surtout le ministère des Finances qui a vu ses effectifs se réduire, en général par le non-remplacement des départs à la retraite, et puis parce que vous avez une politique d'informatisation qui a été très importante, et donc à l'époque ça a permis de remplacer un certain nombre de personnels, mais c'est vrai que dans les autres domaines le contact humain, les compétences étaient indispensables, donc effectivement ça n'a pas fonctionné.
Il y a cette idée reprise par François Bayrou de supprimer les agences publiques. Il disait dans son discours de politique générale que ces 1000 agences sans contrôle démocratique réel constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux peut difficilement se satisfaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ?
Bah, c'est vrai que ce qu'on appelle les agences, c'est tout simplement en termes juridiques des établissements publics, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie, ils ont une personnalité morale, c'est pas l'État en tant que tel. C'est vrai que ça constitue parfois un marché du pantouflage secondaire pour les hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas aller dans le privé, mais qui vont dans les établissements publics, où ils vont trouver souvent des rémunérations, des primes et des conditions de travail tout à fait confortables. C'est vrai que ça s'est beaucoup multiplié, c'est vrai que c'était un modèle très anglo-saxon dont il y a une vingtaine d'années, mais ça pose énormément de problèmes de coordination, ça pose des problèmes budgétaires, parce que souvent vous avez des doubles, des triples, des quadruples emplois, et c'est vrai que la fragmentation de l'appareil d'État, en fait, est une difficulté financière principale, parce que, dans le fond, vous avez n'avait jamais eu réellement de contrôle sur l'ensemble des activités. Si vous voulez, on parle souvent de contrats ou d'objectifs, mais en réalité, il n'y a pas de suivi réel. Mmh. Donc, en fait, vous avez une, je dirais, une pléiade de groupes avec une certaine autonomie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose de savoir s'il ne faut pas un peu rationaliser tout ça.
Mais du coup, ce serait quoi une débureaucratisation efficace ?
Bah, si vous voulez, alors... J'ai pas de réponse. Et si, c'est terrible, hein, vous posez des questions qui n'ont pas de réponse. Mais en fait, si, il y a plusieurs possibilités. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes un libéral pur et dur, vous allez dire on va privatiser massivement et puis on va transférer au secteur privé. C'est ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, ce qu'ils ont fait à une certaine époque en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc. Ils en sont revenus parce que. En termes de coûts, il y avait un transfert de coûts sur les particuliers et finalement sur la qualité du service. Vous pouvez, alors, plus judicieusement en France, je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener sur la décentralisation, hein, parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus, mais c'est vrai que vous avez une très grosse attente des Français pour davantage de services de proximité. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, toutes les crises sociales récentes sont très très liées à l'absence de services publics, à l'absence de services de proximité, parce que vous n'avez plus de crèches, vous n'avez plus de services hospitaliers, vous avez des écoles très lointaines, etc. Donc ça, sur le quotidien des Français, ça compte beaucoup. Donc effectivement, il y a une réflexion à mener sur la décentralisation et le transfert aux élus locaux de compétences beaucoup plus générales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis sinon, bah, vous avez effectivement, après, des décisions politiques, savoir comment hiérarchiser les politiques publiques. Est-ce que la défense aujourd'hui, c'est plus important que l'éducation ? Est-ce que l'éducation, c'est plus important que la santé ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un gros problème de hiérarchisation des priorités.
Gros problème d'arbitrage. On continue de détricoter la débureaucratisation. Là, j'ai tenté une phrase vraiment très complexe. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il a liké les 100 derniers posts d'Elon Musk sur X. Désolé, la messagerie de votre correspondant est pleine et ne peut plus accepter de messages. Voilà ce qu'entendent depuis des mois les agents de l'URSSAF chargés de son recouvrement. Oui, c'est un garçon qui n'aime pas beaucoup les bureaucrates, les ronds de cuir, comme il les appelle avec mépris.
Vous savez que
mais
j'ai quitté X.
Vous avez quitté X, vous aussi ?
J'en ai pas fait des caisses à l'antenne.
Ah, comme
mais...
Manon.
Oui, voilà.
Ça a été plus discret comme désertion.
Ah bah oui, j'ai pas beaucoup de gens qui me
suivaient. Je vous dis bravo. Quentin, les gens pensent-ils comme vous ? Vous êtes allé leur poser la question.
Et ma première rencontre, c'est ce monsieur qui découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Débureaucratisation, oui. Néologisme, en l'occurrence. Un peu compliqué par rapport à sa signification, puisqu'on est censé simplifier. Donc, choisissez un mot qui correspond au message véhiculé, peut-être.
C'est vrai que c'est pas le mot le plus simple. Je tente ma chance avec Fabrice. Doudoun, jean gris, il est commercial. Pour lui, c'est quoi la débureaucratisation ?
Bah, en fait, simplifier un petit peu les démarches administratives, peut-être aussi tout ce qui est les réglementations, les normes, etc.
Georges Pompidou avait dit à Jacques Chirac qu'il lui ramenait un tas de papiers, arrêtez d'emmerder les Français.
Ouais, c'est pas mal.
C'était en 66,
que...
hein.
Oui, bah, je pense que on pourrait continuer, oui, parce qu'on n'est pas sur la bonne voie là pour
Alors,
l'instant.
Justement, Fabrice a un exemple concret pour illustrer l'incohérence administrative en France.
Mon fils a passé son permis de conduire et il fallait son document ASSR2. Sauf qu'il l'a perdu, il a fallu faire la demande à son lycée, enfin c'était relativement compliqué pour récupérer ce document. Ça, si vous voulez, ça fait partie des choses où on se dit c'est purement administratif, ça n'a aucun intérêt puisqu'il avait déjà son code et son permis, mais il ne peut pas obtenir son papier tant qu'il n'a pas fourni un document qu'on lui donne en troisième alors qu'il a passé son permis à 19 ans, voyez.
Oui, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. J'arrête maintenant cette dame d'un certain âge, toute coquette, les cheveux roux, une tenue verte, des gants en cuir assortis. Elle a un rendez-vous, c'est certain. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Gabrielle.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là ?
Je vais à un rendez-vous retrouver un ami qui m'invite à prendre un café.
Elle découvre à voix haute le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Débureaucratisation. Bah oui, bon, c'est faire ce que fait Trump de façon un peu folle aujourd'hui, débureaucratisation. Qu'il y a trop de bureaucratie, trop d'administration, bien sûr.
En France, on souffre de ça ?
Oh oui. Par rapport à la mutuelle, ça fait un an qu'ils doivent me rembourser quelque chose et c'est toujours pas fait. Et ils me réclament des papiers que j'ai déjà envoyés 3 fois. Oui, voilà. Donc il faudrait un petit peu nettoyer, éclaircir un peu tout ça.
Faire un peu de ménage. Je lui parle du numérique, la dématérialisation qui pourrait être une solution, mais ça va sans doute aussi passer par ça.
Ah, ça, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas de la génération du numérique, donc c'est pas trop mon truc.
Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est-à-dire que si la débureaucratisation passe par le numérique...
Oui, mais on déshumanise déjà avec tous ces réseaux sociaux.
Donc on aura même dans la fonction publique, on aura des robots, quoi.
Bah, peut-être. Je serai sans doute plus de ce monde, mais je n'ai pas tellement envie d'assister à ça.
Je vous souhaite un bon café.
Merci beaucoup. Au Merci, au revoir.
Au bout de la rue, je vois ce jeune homme qui sort avec sa bande de copains d'une chaîne de fast-food. Il a comme une sorte de couronne colorée pliée sur la tête.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Sacha.
Sacha, vous avez une couronne sur la tête ?
Oui.
Pourquoi ?
Bah parce que je sortais du Burger King et je me suis dit pourquoi pas utiliser les couronnes qui sont mises à disposition parce que, à part les enfants, personne ne les utilise.
Ok, super Sacha. Alors, il est jeune étudiant, il découvre la...
Débureaucratisation. Moi, ça fait directement penser à Elon Musk. Ce qu'il veut faire avec le Doge, ce qu'il va faire aux États-Unis. En fait, quand on regarde nos opposants, par exemple, que ce soit en Chine, si on veut, nous, en tant que puissance française, en Chine, les bureaucrates, il n'y en a pas autant que de par chez nous. Il n'y a pas autant de fonctionnaires.
Et pour lui, il y a une chose en France qui illustre bien la bureaucratie, ce sont...
La région, les départements, les villes, les communes, les collectivités intercommunales. Moi je viens du sud de la France, donc on en a pas mal. Et c'est des choses qui ne servent pour la plupart à rien. Après... En posant, je pense, les bonnes questions, on peut se dire que oui, peut-être se rendre compte que les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui peuvent être enlevés, peuvent être réduits ou mettre à mi-temps.
Allez hop, à mi-temps les fonctionnaires en région, ça rigole pas avec Sacha Musk. Ma dernière rencontre, c'est Roger. Fraîchement retraité, il me dit qu'il va au cinéma seul et qu'il décidera devant les affiches de l'accueil ce qu'il ira voir. Ainsi va la retraite. Dernière réaction sur la débureaucratisation.
Hein, ce qui signifie tout simplement que, objectivement, le pouvoir public, on peut s'en passer. Voilà ce que ça signifie, ce terme-là.
Est-ce que c'est dangereux de penser à ça ?
Absolument. Parce qu'il n'y a plus de collectif. Il n'y a qu'un système individuel qui compte. On n'a qu'à le voir avec les hôpitaux, avec l'école. Tout ça, ça disparaît à grande vitesse. Même la pensée disparaît avec l'intelligence artificielle. Même notre pensée va disparaître. Le libéralisme, très exactement. Voilà le super monde que l'on veut nous présenter et nous imposer. Depuis des années et des années.
Il en avait presque les larmes aux yeux, Roger. Alors faut-il faire un peu de ménage ? Et si oui, comment et jusqu'où ? Y a-t-il un peu de populisme à la « rien ne va plus ma petite dame » derrière cette idée de bureaucratie ? Est-ce que le français râle tout le temps depuis Pompidou ? Oui, et même avant. Voilà tout.
Merci Quentin. Luc Rouban, j'ai envie de rebondir sur le dernier témoignage, celui de Roger, parce qu'à part lui, on a l'impression que tout le monde est globalement d'accord avec Pompidou, on est quand même en 2025, et globalement tout le monde se méfie de l'administration, des normes. Il faut peut-être prendre le contre-pied et rappeler quand même que ça fait partie du socle démocratique, l'administration. Imaginons un pays, une France sans son administration et sans ses normes, il y en a peut-être trop, mais ça ne serait pas la joie non plus quand même.
Écoutez, la France sans État, on l'a connue, hein, c'est le Moyen-Âge, hein, c'est le système médiéval, donc vous avez des fiefs, etc. Donc c'est tout le problème du rapport entre public et privé, parce que si vous n'avez pas de pouvoir public, vous avez des pouvoirs privés. Vous savez, la nature, surtout politique, a horreur du vide. Et ça, on l'a connu autrefois. Vous savez, les libertariens américains, aujourd'hui, qui prônent l'absence d'État et la privatisation absolument de tout, en fait, ils ont redécouvert le modèle médiéval, féodal français ou européen, hein, avec des contrats, avec des communautés. Sauf que dans ce cas-là, et ça c'est un vrai débat en philosophie politique, c'est que les pouvoirs privés, eux aussi, se hiérarchisent. C'est que vous avez toujours un gang qui est plus fort que l'autre. Hein, et donc vous avez des logiques de mafia. Donc vous avez une concentration du pouvoir en haut, vous avez un taulier, vous avez des petites mains, et puis si vous n'êtes pas dans la clientèle de cette mafia, ou de ce fief, ou de ce suzerain, eh bien, vous êtes, je dirais, en très, très mauvaise position. Donc, si vous voulez, c'est derrière tout ça, il y a quand même un vieux débat qui est celui du pouvoir privé contre le pouvoir public. Et votre interlocuteur avait parfaitement raison de souligner le problème.
Et c'est intéressant parce qu'il y a comme une, pas une haine, mais une rancœur envers les fonctionnaires en France. C'est les premières personnes auxquelles on s'attaque quand on parle de ça. On dit, les fonctionnaires. Pourquoi ça date de quand, cette césure avec le peuple français ?
Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est très ancien et ça va... Finalement, ça date des dernières années de la monarchie, mais vous savez, sous la Révolution, il y a Saint-Just, en 1793, qui dénonce les 20 000 sots qui saignent et corrompent et trahissent la République. Vous avez les trois thèmes. La corruption, le fait que c'est du gâchis financier, et finalement qu'il y a une forme de trahison. Et dans le fond, pourquoi les fonctionnaires pose un problème, je dirais, bon, je suis un petit peu docte là, mais un problème sociopolitique. C'est parce qu'on va voir, avec la division du travail des pouvoirs publics, de l'État, on va voir apparaître une catégorie de gens qui sont diplômés, une petite bourgeoisie diplômée, qui n'est pas fortunée, qui va avoir de plus en plus de pouvoir, qui va se constituer en un univers un peu particulier, et en sa culture. Vous savez, vous avez toute une littérature sous la Troisième République qui dénonce et qui montre cet univers des bureaux, etc. Et vous savez, les fameux livres d'Émile Fargue, hein, L'horreur des responsabilités suivie par le culte de l'incompétence, vous voyez, c'est 1880, hein, c'est pas récent. Hein. Mais si vous voulez, pourquoi ? Parce que dans le fond, c'est une catégorie sociopolitique qu'on n'arrive pas à classer. Ce qui fait que tout le monde va les détester. Les monarchistes, au début de la Troisième République, vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces petits bourgeois ? Ils sont au service de qui, de quoi ? Ils prennent les budgets. » Les libéraux vont être contre. Les socialistes vont être contre. Parce que ce sont les valets de la bourgeoisie. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'arrive pas à les isoler et à les spécifier. C'est un pouvoir que l'on considère comme autonome et donc incontrôlable, donc dangereux, donc on n'aime pas.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
1997, un homme se dresse contre la bureaucratie et l'administration. Seul, armé de sa paire de lunettes, de la sécu et de son franc-parler, il ose dire tout haut ce que Cyril Lacarrière pense tout bas. Ce visionnaire, c'est Claude Allègre. Elon Musk avait même pas dessiné le rétro de sa première Tesla que le ministre de l'Éducation nationale voulait déjà dégraisser le mammouth et promouvoir les nouvelles technologies. 28 ans plus tard, Lucie, notre IA française, connaît le poids des trous de l'Emmental et place le Zoom Zoom Zinc en tête des émissions de radio les plus mythiques. C'est dire si on fait fausse route, si on croit que l'IA va remplacer les fonctionnaires, en tout cas à court terme. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte cet après-midi, des tentatives foireuses pour débureaucratiser en misant sur l'intelligence artificielle. Et on commence à New York. Cyril Flûte, Sinatra, New York, New York, évidemment. C'est important de planter le décor dans un quiz, et là, on y est.
Ah, c'est bien nul.
New York, Manhattan, la ville qui ne dort jamais et qui parfois devrait. En 2024, la ville lance Chatbot My City, mis au point par Microsoft pour fournir aux New-Yorkais des infos sur la création d'entreprises, ainsi que la politique du logement et les droits des travailleurs. D'après vous, Manon Quentin, quel conseil vraiment avisé va donner le robot ? Il est légal d'enterrer clandestinement un de ses employés après un accident du travail ? Il est légal de licencier un collaborateur qui se plaint de harcèlement moral ou sexuel ? Ou on peut servir à ses employés de la nourriture préalablement grignotée par des rats ?
Choix multiple ou pas ?
Choix multiple. BC.
Les trois.
Ah non, bien joué, Manon.
Ah, c'est ça ?
Est-ce qu'elle a vu par transparence derrière ma feuille ? Oui, B et C. Alors ça, c'est Cyril qui vient de découvrir qu'il était illégal de harceler moralement un employé. Et ça, c'est Quentin qui vient de se souvenir qu'il avait demandé à MyCity comment remplir sa déclaration d'impôt. Bref, le truc a fait un flop. Attention, on reste aux States en 2019. Une époque bénie, Trump accédait au pouvoir pour la première fois. Il ne connaissait pas encore l'existence du Groenland. Surtout, le Covid n'avait pas encore déferlé sur le monde. Une chance, parce qu'à l'époque, l'IA, dans le monde médical, n'était pas encore prêt à y faire face. La preuve, cette année-là, les autorités sanitaires américaines concoctent un algorithme pour permettre aux patients à haut risque de bénéficier d'un suivi amélioré, plus réactif, afin de prévenir les complications graves. Un algorithme qui va se planter magistralement, puisque d'après vous, que va-t-il se passer ? L'outil va oublier les vieux, parce qu'il ne sert plus à rien. L'outil va oublier les gros, parce qu'ils l'ont bien cherché. Ou l'outil va oublier les noirs, parce qu'ils sont noirs.
B et C.
Waouh, c'est chaud. B.
Vous avez dit Quentin ?
B et C.
Arrêtez les choix multiples.
B.
C alors.
Oh oui, Quentin ! Quelle bonne réponse ! Et oui. Quand Cyril Lacarrière est énervé, il joue Born in the USA à la flûte. Ça l'apaise. Effectivement, bel exemple.
Elle est mieux celle-ci.
Bel exemple. Il a progressé. Ouais. En quelques minutes, il a progressé.
Entre Sinatra et...
C'est fou, hein.
Bel exemple de la connerie artificielle. L'algorithme utilisait les dépenses de santé comme indicateur pour déterminer les besoins d'un individu. Or, les dépenses de santé des patients noirs les plus malades et souvent les plus pauvres étaient similaires à celles des personnes blanches en meilleure santé. L'algorithme considérait donc qu'ils n'étaient pas si malades que ça et donc ne les faisait pas bénéficier du suivi dont ils avaient pourtant urgemment besoin. Oui, Cyril, ne sachant pas jouer au Les Champions à la flûte, on a mis l'original. Mais attention, on se déconcentre pas, on part pour la Grande-Bretagne, justement, en pleine épidémie de Covid en 2020. Alors que Boris Johnson fait la chenille pendant une teuf en plein confinement, l'épidémie galope plus vite qu'un Quentin, lui, se ruant vers la cantine de Radio France un jour de merguez frites, c'est-à-dire tous les jours. L'agence de santé anglaise met au point un outil de remontée automatique des résultats positifs au dépistage afin de prévenir les cas contacts. Vous vous souvenez des fameux cas contacts. Une bonne idée sur le papier. Hélas, d'après vous, qu'est-ce qui a merdé ?
Oula.
Les données étaient inexploitables parce que le ministère de la Santé avait oublié de renouveler son abonnement au pack office. Parce que Excel ne pouvait pas gérer toutes les données, ou parce que l'outil ne permettait pas d'ajouter de pièces jointes.
Ah, ouais, c'est ça.
Ils ont oublié. Oui, parce que vous en souvenez, vous l'avez lu ça.
Je crois.
À l'époque, hein, évidemment.
C'est
Oui, c'est, non, c'est la réponse.
Ah, moi, j'ai dit A aussi.
C'est une catastrophe. C'est la réponse B. Ah. Excel ne pouvait pas gérer les données. Aussi précis qu'un Boris Johnson après une soirée Gin and Chicks à Downing Street, l'IA chargée de surveiller la pandémie faisait remonter les données dans des feuilles Excel qui, comme chacun le sait, ne peuvent contenir que 16 300 colonnes. Et comme l'outil était un peu con, il listait les noms par colonne au lieu de les lister par ligne. Résultat, un beau bordel. Le temps qu'on s'aperçoive du problème, 15 000 noms de cas contacts avaient disparu à jamais. Comme quoi, il n'était pas si nul, Olivier Véran. Et justement, pour conclure ce quiz, let's go back to France. On a beaucoup parlé de l'IA française Lucie, qu'on a été obligé de débrancher 48 heures après l'avoir lancée parce qu'elle racontait n'impe. Mais on a moins parlé, et c'est dommage, de l'intelligence artificielle générative déployée pour aider les fonctionnaires à répondre aux demandes des administrés, à instruire certains dossiers. Manon, Quentin, comment s'appelle cette IA qui va être bientôt au cœur de nos vies ? Albert ? Aristote ? Ou Cyril ?
B.
Ouais.
Aristote ?
B, ouais, ouais.
Eh bien, vous terminez ce quiz comme vous l'avez...
Albert,
non, c'est trop tard. Je vous présente Albert. Et à quoi va servir Albert ? Eh bien, par exemple, à retranscrire les audiences judiciaires ou à aider les agents des impôts à répondre aux 16 millions de demandes de renseignements en ligne. Relevez-vous, Quentin. En cas de contrôle fiscal, vous aurez toujours un interlocuteur humain, rassurez-vous. Victoire ! Victoire de Quentin, lui.
Hein ?
On me signale que c'est une victoire de Quentin, lui.
C'est n'importe quoi.
Bah bravo.
Ouais, bravo. Ouais.
Vous applaudissez Quentin ?
Bah oui, pour
c'est bien. C'est fair play, c'est fair play, c'est
à la 500e, c'est bien.
Effectivement. Non, la 499e, ah attention. Oui, ah non, la 498e, on est quelle émission
aujourd'hui ?
Oui,
c'est ça.
On est quel jour d'ailleurs ?
On est la 490e, effectivement, c'est très émouvant. Virez-moi ces fonctionnaires que je ne saurais voir. On continue de zoomer sur la grande tendance du moment de Washington à Buenos Aires, la débureaucratisation. Le sociologue Luc Rouban est avec nous aujourd'hui. Luc, Trump et Musk, ils veulent créer, ils ont dit, le plus petit gouvernement possible d'ici le 4 juillet 2026. Trump dit que ce serait un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, rien que ça. Qu'est-ce qu'ils entendent par le plus petit État possible ?
Bah, ils veulent surtout un gouvernement très réduit, avec une concentration du pouvoir au sommet. C'est ce qu'on observe déjà en France depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2017. Donc en fait, alors c'est là où ça devient paradoxal, c'est qu'on l'a vu aussi avec les réformes sous Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que comme la réforme est menée par le haut, et de manière très concentrée dans des cercles très étroits de cabinets ministériels, voire de cabinets de consultants privés, en fait, vous avez une dégradation du statut social des fonctionnaires qui s'accentue, notamment des hauts fonctionnaires, et donc, en fait, vous créez de la bureaucratisation. C'est-à-dire que, avant, vous aviez des hauts fonctionnaires ou des cadres qui avaient quand même un minimum d'autonomie et qui étaient, je dirais, en capacité de définir des politiques publiques, de formuler des conseils, de participer, je dirais, intelligemment à l'élaboration de l'action publique, et progressivement, vous les transformez en manager, c'est-à-dire finalement en technicien de l'action publique. Donc il y a eu tout un processus de dégradation du statut social des fonctionnaires, y compris en France, et notamment la haute fonction publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens vous disent pour réussir aujourd'hui en France, il vaut mieux aller dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public. Ça, c'est très clair. Et donc, si vous voulez, vous avez ce problème de concentration au sommet, et dans le fond, et c'est pour ça que...
Mais ça peut pas être une dérive totalitaire d'avoir une... Bah, tant il n'y a plus de contre-pouvoir. Ils sont...
Ah bah écoutez, tant qu'il y a encore des magistrats, tant qu'il y a encore des élections, ça va quoi. Bon, c'est pas le totalitarisme. Hein. Mais c'est vrai que vous arrivez à ce qu'on peut appeler une privatisation du pouvoir. C'est-à-dire effectivement des cercles extrêmement réduits. Et c'est même plus la politisation à l'ancienne avec des partis politiques, ce sont vraiment des réseaux interpersonnels. C'est-à-dire que vous voyez bien, entre Trump et Musk, hein, c'est pas une question purement politique, c'est vraiment une question d'amitié personnelle. Et donc on retrouve des formes de pouvoir ancestrales, comme on les connaissait sous la Renaissance, avec les princes de la Renaissance. Quoi.
On parlait de la numérisation, mais est-ce que l'intelligence artificielle va être un outil aussi pour les politiques, pour supprimer des postes administratifs quoi ?
Oh oui, puis ça sera un outil pour supprimer les journalistes, pour supprimer...
Ah non, attention,
pour supprimer les écrivains, pour supprimer les musiciens, pour supprimer les hommes politiques aussi, parce que pour faire des discours creux, je pense que... Là, je crois que l'IA va pouvoir générer, je dirais, de manière beaucoup plus efficace et
non,
plus
mais
rationnelle.
Ça va être un argument en plus ?
Bah écoutez, j'en sais rien, parce qu'il faut que ça... Effectivement, il faut que ça fonctionne, déjà, premièrement. Parce que moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, tu sais, on essaye, on regarde ce qui se passe en matière de recherche, et l'IA nous fournit, c'est très intéressant, des références qui n'existent pas.
Ah bah oui.
Donc, avec créer des bouquins qui n'existent pas, donc c'est formidable. On va vers une époque formidable. Donc, après, il va falloir contrôler ce que fait l'IA. Donc, de toute façon, il va y avoir des bureaux de contrôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, sur un certain nombre de... Quand il s'agit simplement d'automatiser des tâches répétitives, oui, ça va. Mais surtout, ça va effectivement supprimer les emplois, évidemment. Mais peu qualifiés.
Luc, un mot peut-être de ce cliché, parce que c'est vraiment un cliché d'ailleurs, parce qu'on on a parfois l'impression qu'on est entré dans l'ère du fameux bon sens, et il y a un truc qui parle aux gens, c'est quand peut-être Musk leur dit, et d'ailleurs le patron de la CPME, le nouveau patron de la CPME en France dit un peu la même chose, c'est malin de demander à un chef d'entreprise de traquer ce qui ne va pas, ce qui est en trop dans l'administration, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas considérer un État, on ne peut pas le traiter comme une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, l'État. C'est peut-être là qu'est le problème.
Mais non, parce que l'État n'est pas là pour... ou les administrations ne sont pas là pour faire des profits, ce qui est comme le but des entreprises. Il est là pour dépenser de l'argent. Donc, et pour créer de la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas du tout la même logique, effectivement. Donc, effectivement, se réduire le problème de la bureaucratie ou de l'administration des fonctionnaires à un problème de coût, c'est oublier que les administrations permettent la cohésion sociale, qu'elles permettent aussi d'assurer un minimum d'égalité et de donner du sens à la vie en société, parce que sinon, effectivement, vous avez une désocialisation qui s'accentue, et c'est ce qu'on observe déjà en France. Donc, en fait, c'est vraiment une réduction du problème de l'action publique à son coût et à ses procédures. Et on ne voit pas, dans ce cadre de raisonnement, on ne voit pas l'autre côté du, je dirais, l'autre aspect qui est fondamental, qui est celui de la mise en œuvre d'une décision publique.
Vous écoutez France Inter, il est, ma foi, on ne sait pas à quelle heure il est, parce que l'horloge est bloquée.
Oui,
elle est, il faut venir la remplacer.
Elle est cassée. Ah,
pas bien grave, vous avez tous votre iPhone sous la main. Vous écoutez France Inter, c'est ça qui est important.
Bien
Manon,
sûr.
Vous nous indiquez la personne à suivre.
Je vous présente Vivek Ramaswamy. Il a 39 ans, il est américain, et le monde a fait sa connaissance dernièrement grâce à Donald Trump, ou à cause de Donald Trump, ça dépend. Le président américain l'a nommé en duo avec Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, appelé le DOGE. Le but, réduire de moitié les employés fédéraux et privatiser des fonctions. Vivek Ramaswamy n'a pas été choisi par hasard. Hein, pour le Washington Post, c'est, je cite, « Donald Trump version 2.0 ».
Ah,
cet entrepreneur est connu pour ses positions fermes contre la bureaucratie. Fils d'immigrés indiens, il s'est imposé comme une figure du capitalisme américain. Il a fondé l'entreprise Roivant Science, spécialisée dans la biotechnologie et le développement de médicaments abandonnés par les grands laboratoires. Lui, il considère que l'administration fédérale est un obstacle à l'innovation et à la croissance économique et prône un démantèlement de plusieurs agences gouvernementales, notamment le FBI et le ministère de l'Éducation. En 2024, il s'est même présenté aux primaires républicaines. Mais difficile de faire le poids face à Donald Trump, d'autant plus quand on n'est pas encore très connu du grand public. Il s'est donc retiré et il a soutenu Trump et il a manifestement mérité sa place au sein de son gouvernement. Mais surprise, le mois dernier, Vivek Ramaswamy a quitté son poste au sein de la DOGE. Les deux hommes ne se seraient pas entendus, Elon Musk et lui ne se seraient pas entendus sur la façon de faire tourner leur département, trop d'égo. Et puis surtout, Ramaswamy a un autre objectif, devenir gouverneur de l'Ohio. Il a officiellement déposé sa candidature la semaine dernière. C'est loin quand même d'être gagné pour lui, notamment car il n'a pas très bonne réputation au sein de son propre parti. Il aurait beaucoup trop d'égo et serait très dédaigneux. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le caractère idéal d'un politique, surtout quand il marche dans les pas de Donald Trump? Vivek Ramaswamy a tout de même un soutien de taille depuis des années, le vice-président J.D. Vance, avec qui il était à la fac. En tout cas, il a annoncé lancer officiellement sa campagne le 24 février prochain. On verra s'il peut bénéficier d'un effet Trump.
Merci Manon. Quand on voit le succès du mouvement MAGA aux États-Unis, Luc Rouban, il n'y a pas qu'en France qu'on a une défiance envers l'administration et les fonctionnaires. Aux États-Unis, c'est un peu pareil ?
Ah oui, tout à fait. Mais si vous voulez, le problème dans la plupart des autres pays occidentaux, c'est que la fonction publique n'a pas ce rôle, je dirais, essentiel dans la fabrication des élites. Et en France, c'est vraiment une voie d'accès aux élites. Et l'État a un rôle central qui n'existe pas aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Vous avez d'autres... en général, c'est plutôt le business privé, ou ce sont les écoles d'ingénieurs, les entreprises en Allemagne, etc. Donc en fait, la question qui se pose en France, elle est très particulière, parce que dans le fond, quand vous remettez en cause la fonction publique, c'est aussi une façon de mettre en cause... Alors, à plusieurs niveaux, la hiérarchie sociale, non seulement les fonctionnaires comme étant trop importants socialement, mais aussi entre eux. C'est-à-dire que quand même, chez les fonctionnaires, vous avez quand même le petit jeu du rang, du mépris. Il y a celui qui est le vrai fonctionnaire, il y a celui qui est le bureaucrate. Mmh. Donc voilà. Donc vous avez un problème de classement social permanent, mais c'est vrai que dans les autres pays, vous avez toujours une considération beaucoup plus fonctionnelle, je dirais du fonctionnaire qui fonctionne, en quelque sorte, voilà. Hein, c'est-à-dire ben, d'un agent qui peut être parfaitement remplacé par un agent privé, et puis dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une administration qui fonctionne très mal.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Elon Musk l'a dit, je cite, « L'administration est le cancer du capitalisme. La plupart des fonctionnaires ne servent à rien en France. Dans une émission de radio du service public, il y a même un type qui est payé à résumer ce que l'invité a dit juste avant. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, chaque après-midi, votre mission, n'en déplaise à Elon, nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et Luc Rouban, le sociologue du CNRS, est venu nous parler de la débureaucratisation, le plus beau mot de la langue française d'après Elon Musk et Quentin lui. L'idée est de s'attaquer aux normes, aux règles et finalement à tous ceux qui sont accusés de les produire dans une sorte de pouvoir anonyme, les fonctionnaires. Débureaucratiser n'est pas une idée nouvelle, c'est même très ancien monde, puisque Cyril nous a rappelé que dès les années Pompidou, on se plaignait déjà d'emmerder les Français avec la paperasse. Information corrigée par notre invité qui fait, lui, remonter la critique de la bureaucratie au marquis de Gournay au XVIIIe siècle. C'est ça, Cyril, la différence entre un rédacteur en chef né sous Giscard et un chercheur du CNRS. La débureaucratisation, c'est aussi un moyen de dégager des marges budgétaires. Les agences publiques sont dans le collimateur de ceux qui veulent dégraisser le mammouth. Mais malgré les déclarations volontaristes de certains politiques, le nombre de fonctionnaires n'a pas tellement changé depuis une vingtaine d'années. Des élus qui sont eux-mêmes responsables des normes qu'ils dénoncent, c'est eux qui votent les lois. Et si elles créent des contentieux, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Dernière saillie de notre invité, les normes, c'est notre état de droit. Sans normes, c'est le règne de l'arbitraire. C'est QFD.
Magnifique Pierre, très beau résumé qui a pris presque une minute.
Dégraisser le mammouth quand même.
Un peu plus, vous râlez parce que vous avez pris un
tac. C'est ça. Et pour finalement, je trouve ça mieux l'intelligence artificielle qui fait le petit carré. Le demeurant québécois, c'était mieux que
moins cher
que l'assistant. Ouais.
Et pour conclure les amis, cette émission sur la débureaucratisation, on a appelé une humoriste biberonnée à Sciences Po, scorpion, ascendant, papier Canson. Bonjour Lucie Carbone.
Oui, bonjour tout le monde. Oh là là, mais quel plaisir de retrouver des gens aussi addicts que moi au service public. Parce que moi, je suis tombée dedans, j'étais gamine. Hein. En soirée, on m'a dit, tiens, tu veux essayer ? C'est de la CAF. Oh putain, ça a commencé avec une ligne, sauf qu'il y en avait 15 autres. Je suis tombée dedans direct. Vous savez comment on m'appelait ? La bec BD du service public. J'ai stiffé la bonnette. Après, là, c'est vrai que bouf, je calme le jeu parce qu'en ce moment, je suis dans un délire de création d'entreprise. Disons que j'ai eu ma dose. Hein. Je crois que j'y suis allée un petit peu fort. J'ai eu un rendez-vous avec l'INSEE. L'INSEE, je peux vous dire qu'il y a des dates qui sont plus sympas que d'autres. Et l'INSEE, elle m'a dit « Oui, pour démarrer une nouvelle aventure, il nous faut ces 15 documents. » Oh, 15 l'INSEE ! Tu me fais du mal, là ! Non, mais les mélanges, il faut éviter parce que vraiment, c'est fatal. Hein. Elle m'a envoyé dans un bad trip à l'INSEE. Enfin, il y avait l'aller, mais il n'y avait pas le retour. Je te jure, dans ma tête, elle m'a jetlagué alors que j'avais même pas bougé. Bon, alors le pire, c'est qu'on est tellement addict au papier que même l'administration cherche à se désintoxifier d'elle-même. C'est-à-dire que là, on a tenté une cure collective à base d'huile essentielle d'intelligence artificielle. Eh ben non, l'homéopathie, ça marche pas. En même temps, l'intelligence artificielle, ils l'ont appelée Lucie. C'est-à-dire qu'il fallait me demander, hein, moi j'aurais prévenu que c'était une impasse. Alors là où l'administration, moi, elle me fume, c'est que quand on supprime une, on en crée une autre. Apparemment, c'est typique du narcotrafic. Je l'ai lu dans Tintin et les Picaros. C'est-à-dire qu'on a remplacé la cosiforme par la COSA, qu'on a supprimé pour la DITP. J'ai envie de dire impeccable. Et c'est ça le problème avec les dealers. Hein. C'est-à-dire que t'en enlèves un, bim, t'en as un autre. Et puis attention, parce que le problème, il est worldwide. Hein. C'est-à-dire que... Ouh, j'ai dit worldwide. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils font pareil. C'est-à-dire que pour supprimer les agences fédérales, ils ont créé une commission pour l'efficacité du gouvernement américain, la DOGE, hein, si j'ai bien suivi. Alors ça, c'est très sournois. C'est-à-dire que tu penses te soigner à l'intérêt général, c'est un générique. Oh, c'est tous fichus de la pauvre Anne de Brad Pitt, mais parfois l'intérêt général, c'est qu'un deepfake. Hein, c'est-à-dire, nous non plus, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que là-bas, leur intérêt général, c'est l'intérêt général de deux personnes. Hein. C'est comme en couple, hein, tu sais, quand on te dit « Non, mais dans l'intérêt général de nous deux, il faut faire une pause » et que deux semaines plus tard, tu vois que la pause, elle mesure 1m80 et pose en bikini sur une plage à Bali. Attends, c'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt général de ton kiff. Bon, alors c'est vrai que le secteur public se privatise tellement vite aux États-Unis que je me demande peut-être qu'un jour, pour y payer ses impôts, faudra peut-être accepter les CGU et payer un abonnement premium pour parler à l'INSEE. Enfin bon, bref. C'est-à-dire que pendant longtemps, la frontière entre le service public et le était privé, bah, c'était le mur de Berlin. Et c'est vrai que là, on est plutôt sur du placo. C'est-à-dire que oui, c'est là, mais bon, on entend tout. Et puis parfois, selon ce qu'on entend, tu rappliques à la soirée. Donc, pour conclure, bon, alors j'ai bien compris hein, qu'il y avait une tendance à la débureaucratisation. Ok, ok, mais pas trop. Genre, on m'a demandé mon avis. Parce que sinon, c'est vrai que c'est peut-être nos droits hein, qui vont finir par être sevrés. Et surtout, moi, j'ai pas fait toute cette paperasse pour disparaître sans justificatif et en plus avec des agios.
On peut vous comprendre. Merci beaucoup, Lucie Carbone. On vous retrouve très prochainement à l'URSSAF, dans un premier temps. Sans doute aussi à ce micro, mais également au Grand Point Virgule, à Paris, et en tournée pour votre spectacle Jour de Fête. C'est bien ça ?
Exactement.
À très vite. Merci, Luc Rouban, de nous avoir aidé à mieux comprendre les limites de la débureaucratisation, une espèce de serpent de mer quand même. Je rappelle que vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS, contrairement à Cyril, on l'aura compris.
Oui,
voilà.
Je ne suis pas.
Voilà, vous qui nous écoutez, surtout, vous ne bougez pas. Zoom Zoom Zen revient juste après le journal de 17h. Et comme c'est vendredi et que vous vivez pour ce rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, on se retrouve en mode Zoom Zoom Back, direction une année mythique, aujourd'hui 1962. Cyril n'avait pas encore de sonde urinaire, il pouvait danser jusqu'au bout de la nuit sur Chubby Checker. Et surtout, une émission culte voyait le jour qui allait devenir la référence des jeunes et le temple de la variété française. Salut les copains, notre invité, lui, n'était pas encore arrivé en France, mais il n'allait pas tarder à débarquer. Il nous raconte ses années. Salut les copains, Dave sera avec nous jusqu'à 18h. Zoom Zoom Zen.